Nous avons déjà entendu beaucoup, et même l'introduction était une bénédiction. Et cela m'a inspiré. Et ainsi que le message que nous avons reçu à travers les chants. Chers amis, c'est le temps dans lequel nous sommes est un temps où nous devons être réveillés spirituellement. Nous savons que nous allons petit à petit vers la fin. Il y a toutes sortes de signes qui nous disent que nous arrivons vers la fin, la dernière fin. Il y a quelqu'un qui a attiré mon attention ces derniers jours sur une note d'Afrique du Sud. Nous savons qu'un des signes de la fin, c'est que les personnes porteront le signe de la bête. Et c'est le triple six.
Et la personne m'a dit que vos notes, certaines des nouvelles notes, ont six lignes, trois fois six lignes à la top.
Et alors, sur les nouveaux billets qu'on a en Afrique du Sud les derniers temps, il y a trois fois six lignes. Enfants ou amis, nous ne savons pas combien le jour de l'Antichrist est proche. La Bible nous dit que nous vivons déjà dans la fin des temps. Et la Bible dit qu'il y a déjà eu beaucoup d'Antichrists jusqu'à maintenant. Mais lentement et sûrement, nous pouvons voir le mal qui grandit dans le monde. Et il arrive à un point où dans certaines villes européennes, les personnes peuvent se balader complètement nues. Et cela est leur droit. On se demande alors quand est-ce que l'Antichrist va venir et à quel point nous sommes proches de la fin des temps. Oui, certainement, depuis la venue de Christ, nous avons vu des périodes avec l'Antichrist. Comme cet homme qui était un descendant d'Alexandre le Grand, qui a égorgé un porc à Jérusalem sur le temple, dans le temple. Et cela m'a rappelé les paroles du Seigneur Jésus. En Marc 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle est, ne doit pas être que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
So we saw that in Antiochus.
Nous avons ça avec Antiochus.
When they ruled Israel.
Lorsqu'ils ont pris le pouvoir et ont régné sur Israël.
Another type of the Antichrist.
Un autre type de l'Antichrist était César Néron. Qui a enflammé Rome et ensuite il a accusé les chrétiens en disant que c'était eux qui avaient démarré ce feu. Et alors ils ont pris les chrétiens et les ont attachés sur des piliers à côté de la route. Ils les ont
enduits.
Les ont enduits d'un produit inflammable. Et alors, ils les ont brûlés de nuit pour avoir de la lumière. Mais nous savons que nous nous approchons petit à petit de ce temps où l'Antichrist va venir et nous voyons de nombreux signes et des phénomènes sur la terre qui pourraient être utilisés par l'Antichrist ou par un Antichrist. Par exemple, le fait qu'il y aurait une société sans cash, sans monnaie, où il ne serait pas possible de payer avec de la monnaie, mais grâce à quelque chose d'électronique, une carte bancaire. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de carte bancaire. Je dis simplement que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé par l'Antichrist quand il viendra. Maintenant, nous avons accès à des outils digitaux. Et alors, il y a de l'argent qui n'est pas physique, mais informatique. Et de cette façon, chaque centime que tu dépenses est enregistré sur un ordinateur quelque part. Et alors, ils ont parlé de vérifier quel est l'argent que tu mets pour acheter de l'essence, et à partir de cela, ils peuvent en déduire les distances que tu as parcourues et l'émission de CO2 que tu as produite avec tes déplacements. Et ils parlent de réduire ou d'imposer des limites pour que tu ne consommes pas trop de CO2. Et en Chine, ils sont en Chine et se préoccupent en ce moment de calculer ou d'évaluer ce que tu dépenses dans ce gouvernement communiste. Amis, que Dieu nous donne la grâce que dans notre vie spirituelle, nous ne manquons de rien, afin que nous soyons prêts lorsque ce temps arrivera. Parce que je pense que ça va venir très discrètement et ça ne va pas nous sauter à la figure soudainement. Et ce matin, j'aimerais parler de comment maintenir et persévérer dans mon sens, dans la position qui nous a été donnée. Et j'aimerais donner deux exemples. J'aimerais donner deux exemples dans lesquels on peut voir comment maintenir cette position qui nous a été donnée dans notre vie. La position n'est pas seulement une position d'autorité. Si tu es un enfant dans une famille, alors Dieu t'a donné la position d'enfant dans ta famille. C'est une position. Et comment est-ce que comment tu la gères? Si tu as une position dans le travail de Dieu, c'est une position, c'est un... Même si tu balayes simplement la route, alors c'est une position que Dieu t'a donnée. Comment est-ce que tu balayes la route? Et pour chacun d'entre nous, ou chacun d'entre nous ont des positions. Si tu es marié, si tu es dans un mariage, tu as la position d'être la femme, l'épouse, et c'est une position que Dieu t'a donnée, ou la position en tant que mari. Comment gères-tu cette position? Prions avant de continuer. Seigneur, nous allons lire et parler de ta parole. Et nous prions que ton Saint-Esprit nous conduise.
Expose les tricks de Satan.
Mets à la lumière les pièges de Satan et donne-nous la solution pour que nous soyons victorieux, que nous puissions avoir la victoire sur les tentations et que nous puissions avoir une vie selon Dieu. Aie pitié de nous, nous te prions.
Amen.
Nous allons lire dans Nombre
16.
Nombre 16. Nombre 16, et nous allons commencer au verset 1.
Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram,
Koré, fils de Jizétar, fils de Kéah, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Éliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, et ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent : C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Arrêtons-nous là pour l'instant. Quelles sont les positions qui sont en jeu dans ce texte? C'était la position de diriger les enfants d'Israël vers le pays promis.
Now just look at the two different ways in which these people wanted to hold that position of the leaders.
Et maintenant, regardez comment certaines personnes ont voulu se saisir de cette position de dirigeant. Regardez la façon dont Moïse s'est tenu à cette position. Regardez comment Coré, Dathan et Abiram ont voulu se saisir de cette position. Et allons au verset 13. C'est Coré, Dathan et Abiram qui parlent. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas.
Let's look at Moses' position, the way he held this position.
Maintenant, regardons comment Moïse a gardé sa position. C'est un verset qui m'atteint jusqu'au cœur, et le verset 4.
It captures to me the attitude with which Moses held his position.
C'est une image de comment Moïse a géré cette situation. Lorsque ces hommes rebelles sont venus et ont donné à Moïse un défi, la Bible dit, lorsque Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il y a tellement pour moi, et peut-être je vois dans ce texte où je lis plus ce qu'il y a en réalité. Mais pour moi, cela montre la relation et le respect que Moïse avait pour Dieu et la gravité du péché de ces hommes qui se rebellaient. C'est comme s'ils ne voyaient pas le péché dans ce qu'ils faisaient. Ils sont dit non, et Moïse pense ou il agit plus ou il pense qu'il est plus que ce qu'il est et on voudrait prendre contrôle sur lui. Mais Moïse a vu combien ce péché peinait Dieu. Et c'était tellement terrible pour lui qu'il est tombé sur son visage et qu'il a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu la miséricorde pour ce péché si terrible, ou terriblement terrible.
C'est comme
C'est comme si ces hommes représentaient un péché qu'il y avait dans tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il a réalisé cela, il a réalisé la gravité du péché dans Israël. Et je vois deuxièmement que c'était une chose tellement terrible qui arrivait que Moïse ne savait pas vraiment comment le gérer. Troisièmement, Moïse a été tellement humilié de faire partie d'une nation qui pouvait commettre un tel péché. Il ne savait pas comment gérer cette chose terrible qui arrivait. La rébellion de ces hommes était tellement énorme aux yeux de Dieu . C'était tellement grave que Moïse ne voulait pas le gérer lui-même. Comment Moïse est arrivé à cette position? Qu'il soit tellement différent d'eux. Parce que si on écoute à ce qu'ils disent, il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'ils disent. Mais nous reviendrons à cela à la fin. Mais comment est-ce que Moïse est arrivé à cette position? Il a été éduqué dans la cour de Pharaon et il a reçu toutes les compétences d'un dirigeant dans la cour de Pharaon. Il a grandi jusqu'à l'âge de 40 ans dans la cour de Pharaon. Et un jour, il est sorti et il a vu qu'un Égyptien battait un homme juif. Et alors, il a frappé l'homme égyptien et il est mort. Le deuxième jour, il a vu deux Israélites qui se disputaient l'un avec l'autre. Et amis, je me dépêche quand je raconte cette histoire parce qu'il y a trop peu de temps. Je mentionne que seulement quelques points. Et il est allé vers ces deux Israélites et il a dit, frères, vous ne devriez pas vous disputer comme vous le faites. Et celui qui avait tort s'est levé et a dit à Moïse, « Qui penses-tu que tu es ? Penses-tu que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse savait que la nouvelle qu'il avait tué un Égyptien avait fait le tour et il a fui. Et il est chez son beau-père et il a commencé à prendre soin de son troupeau de moutons. Pendant 40 ans, il n'a même pas pris soin de ses propres brebis, mais des brebis de son beau-père. Intéressant. Les problèmes qu'il a rencontrés ne sont pas venus des Égyptiens, mais d'une personne du peuple d'Israël. Regardez les disputes et les querelles dans l'Église de Christ aujourd'hui. Et regardez ces disputes parmi l'Église de Christ parce qu'ils pensent que leur honneur a été empiété. Depuis le début, l'opposition que Moïse a rencontrée par rapport à l'appel qu'il avait reçu venait des Israélites. Ami, si tu es mis dans une position par Dieu et tu n'es pas capable de mourir à toi-même, tu n'es pas volontaire pour être le dernier. Tu n'es pas volontaire de dire « je demande pardon ». Tu vas devenir un ennemi de ce que Dieu veut faire. Et Moïse a fui pendant 40 ans. Premièrement, j'ai cru qu'il Premièrement, j'ai cru que Moïse avait dû fuir dans le désert parce que il avait tué un Égyptien, il avait péché et alors il a dû se retirer pendant 40 ans. Mais si on lit dans le livre d'Actes, lorsque Étienne parle de Moïse, il rend très clair que Moïse n'a pas péché lorsqu'il a tué l'Égyptien. C'est dans chapitre 7, mais nous n'allons pas lire cela maintenant. Et Étienne dit « Moïse a tué l'Égyptien parce qu'il a cru que les Israélites sauraient qu'il avait été choisi, qu'il avait été choisi pour rendre le peuple libre et les libérer de leur esclavage. Il y avait déjà un appel sur la vie de Moïse lorsqu'il a pour libérer le peuple d'Israël. Friends, may you fill your position on the mission with fear and trembling.
Que tu puisses, ami, remplir la position que tu as sur la mission avec tremblement et crainte. Parce que Dieu a placé quelqu'un en dirigeant qui peut t'amener à la liberté. Et toi, par étant charnel, tu te rebelles contre cela. La chose suivante.
Into the desert and look after not his own sheep, his father-in-law's sheep for 40 years.
Pendant 40 ans, a pris soin des brebis de son beau-père dans le désert. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit, parce qu'il savait qu'il n'avait pas péché, que ce n'était pas une punition de la part de Dieu. Mais Dieu l'a appelé pendant 40 ans pour s'occuper simplement de brebis. Et il l'a fait fidèlement.
Amis,
est-ce que Dieu peut t'appeler à s'occuper de brebis pendant 40 ans sans responsabilité, sans choses extraordinaires à faire, sans reconnaissance des autres pendant 40 ans dans le désert? Cela est le problème dans l'Église. Les personnes n'ont pas l'esprit que Moïse avait. Même s'il savait qu'il y avait un appel sur sa vie, il n'a pas eu de problème à prendre soin des brebis pendant 40 ans, jusqu'au jour où Dieu l'a amené près du buisson ardent. Savez-vous que ce travail a été commencé par un homme de cette sorte? Un homme qui a pris soin de brebis pendant 12 ans, de façon insignifiante, sans être remarqué par les autres. Mais fidèlement, il a pris soin spirituellement des brebis de Dieu. Jusqu'en 1966, lorsque le réveil est descendu. Et Dieu lui est apparu comme il a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Le buisson ardent pour moi, est un symbole du réveil. Parce que lorsque Moïse s'est approché, Dieu lui a parlé, elle a dit « Retire tes sandales parce que tu te tiens sur une terre sainte. » C'est ce qu'il se passe dans le réveil. Dieu dit à des personnes qui l'ont servi pendant de nombreuses années. Il dit à ces chrétiens qui l'ont suivi pendant de nombreuses années, tu te tiens sur une terre sainte. Il y a des choses, des péchés dont tu dois te débarrasser. Et en 1966, Dieu leur a dit, retirez vos sandales. Il a dit cela à ces personnes qui se rassemblaient, qui étaient ensemble, parce que vous vous tenez sur une terre sainte. Et Dieu a alors parlé à Moïse. Et Dieu a alors dit à Moïse d'aller en Égypte pour libérer les Israélites. Moïse était un homme brisé. Et il a dirigé Israël en étant un homme brisé.
Korah, Dathan et Abiram were not broken men.
Korah, Dathan et Abiram n'étaient pas des hommes brisés. Ils voulaient la position, mais elle aurait été, il y aurait eu une malédiction sur cela. Et on peut appliquer cela à n'importe quelle position, que ce soit la position de se marier. Si tu te maries avec l'esprit de Korah, Abiram et Dathan, ton mariage sera une malédiction. Tu te maries pour ce que toi, tu peux retirer égoïstement du mariage. Tu ne te maries pas en tant qu'homme brisé, en obéissance à l'instruction de Dieu. Toi, enfant, sur la mission, si tu vis ici avec l'esprit de Korah, Dathan et Abiram, tu seras rebelle parce que tu veux retirer quelque chose de cela. Peut-être le problème est que tu ne sais pas ce que cela signifie de prendre soin de brebis pendant 40 ans et de servir. Mais je l'ai vu tellement souvent que des personnes viennent ici, Dieu les sauve, ils deviennent chrétiens, ils commencent à étudier. À partir du moment où ils ont une qualification ou un diplôme, alors l'esprit de Korah les envahit. Et ils veulent retirer quelque chose pour eux grâce à ce diplôme. Et ils se voient comme Moïse, prince d'Égypte. Et comme en tant que prince, ils ne pensent pas que c'est à eux de s'occuper des brebis pendant 40 ans. Quel était le problème de Korah, Dathan et Abiram? Ils étaient irrités ou en colère à cause des difficultés par lesquelles ils sont passés. Ils ont dit à Moïse, « Moïse, tu nous as promis un pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce que tu nous as donné ? Un désert. Pas d'eau, pas de viande, pas de pain, un soleil tellement brûlant. » Et tout ce qu'ils disent est tellement de bon sens pour notre logique humaine. La personne qui veut vivre cette vie chrétienne de façon charnelle va trouver les choses difficiles et va décider, parce que ce n'est pas logique, et va décider de quitter cette mission. Mais pas Moïse. Il est tombé sur sa face, sur son visage. Non, il n'aura pas passé un shampoing et dit « Mais qu'est-ce que vous pensez que vous êtes ?» Il est tombé sur son visage. Et Seigneur, il a plaidé. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Et s'il te plaît, ne descends pas pour consumer toute la nation. Il ne pouvait pas prier pour eux parce qu'il s'était rebellé contre sa propre autorité. Peut-être il est tombé comme il est tombé parce que il voulait voir quelle est cette situation du point de vue de Dieu. Comment Dieu voit la situation? Peut-être il voulait simplement qu'ils reviennent à leur bon sens et puissent réaliser ce qui se passait. Et peut-être il ne savait pas comment gérer cela et il a amené ce problème à Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, gère cette situation. Combien de fois faisons-nous des erreurs parce que nous voulons gérer les choses nous-mêmes et nous ne les amenons pas à Dieu pour savoir comment lui les gérer. Moïse ne s'est pas accroché à sa position. Elle était sur l'autel et il l'a rendue à Dieu. Et il a dit, Seigneur, n'exige pas ou cette position n'est pas un dû pour moi. Est-ce que tu es comme Moïse, cher ami? Est-ce que tu vas à Dieu avec tes problèmes? Ou est-ce que tu les gères toi-même? Regardons de plus près Corée, Dathan et Abiram. Ce qu'ils disent est tellement logique. Et c'est vrai. Ils sont allés, ils ont traversé toutes les guerres avec Moïse. Ils sont allés avec lui dans le désert. Ils ont traversé lorsqu'ils ont manqué de nourriture. C'est tellement facile C'est tellement facile de penser, mais en fait, quelle est la différence entre Moïse et moi? Parce que j'ai traversé la même chose que lui.
Mais
tu n'es pas au courant. Tu n'es pas informé ou au courant de ce que Moïse a vécu avec Dieu au buisson ardent lorsque Dieu lui a donné un appel. Une personne ainsi n'a pas vraiment l'impression ou ne se ressent pas que ce qu'elle fait est faux. Et c'est une personne de cette façon ne pense pas, mais il a trop d'autorité. Non, ils ont jugé Moïse avec leur point de vue humain. Amis, ceci est la malédiction dans l'Église de Dieu aujourd'hui, de Christ. Ils essayent de servir Dieu avec leur logique humaine. Et ils jugent et ils interprètent les choses par leur logique humaine. Et ils sont toujours à l'opposé ou en opposition à ce que Dieu est en train de faire. Ils sont toujours la cause de problèmes. Je voulais prêcher cette réunion il y a déjà 2 mois. Et je me suis dit que j'allais. Je voulais la garder pour une occasion spéciale. Mais lorsque j'ai entendu que je devais prêcher ce matin, alors je me suis dit que j'allais vous partager cela. Parce que tu es assis avec ces personnes et tu fais du conseil jour et nuit. Et pourquoi? Parce que ils servent Dieu avec cet esprit de avec Corée, Dathan et Abiram. Ils n'ont pas eu d'appel de Dieu. Leur appel n'est pas sur l'autel comme c'était le cas de Moïse. Et ils veulent que la justice soit faite d'un point de vue de logique humaine. Et alors, on arrive à un nouveau problème. Verset
13.
Ils disent, Moïse, mais tu nous as fait sortir du pays où coulait le lait et le miel. Et tu nous as amenés dans le désert. Ah, là est la racine. Le pays promis mais auquel ils aspiraient n'était pas celui où Dieu les amenait, mais l'Égypte qu'ils avaient quittée. Peut-être tu dis, bon, je ne suis pas retourné en Égypte, mais eux non plus, ils ne sont pas retournés en Égypte. Ils avaient quitté l'Égypte. Mais comme il le souvent dit, l'Égypte ne les avait pas quittés et l'Égypte était dans leur cœur. Et la difficulté de servir Dieu, la difficulté rencontrée lorsqu'ils servaient Dieu dans le désert était trop pour eux. Et ils ont commencé à aspirer à nouveau au lait, au miel et à l'ail qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Ami, examine-toi de façon très avec beaucoup d'attention. Quel est ton pays promis? Est-ce que c'est Canaan? Ou est-ce que ton pays promis est Égypte, l'Égypte, là d'où tu viens? Et tu te retrouves à aspirer au plaisir que tu avais lorsque tu vivais en Égypte, le pays de Satan. Sois, porte beaucoup d'attention à cela, chrétien, parce que la difficulté que tu rencontres dans le désert peut changer ton état d'esprit ou ta façon de voir les choses. Et tout à coup, ils dépriment, ils rentrent en dépression parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que je fais ici, dans le désert ?» Et alors ils deviennent dépressifs. Et ils ne voient pas la grâce de Dieu. Ils ne voient plus la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ne voient plus la grâce que Dieu leur a accordée lorsqu'il les a retirés des mains du diable en Égypte. Non, cela devient trop difficile pour eux. Et alors, ils deviennent déprimés dans ce voyage vers Canaan. Cher pèlerin, alors que tu es sur le chemin vers le pays promis, il y a des défis dans le voyage. Il y a des défis sur ce voyage et il y a des difficultés pendant ce voyage. Est-ce que cela t'a rendu aveugle à la grâce de Dieu dans ta vie? Et le résultat est que tu deviens soudainement quelque chose à tes propres yeux. Tout à coup, c'est trop dur et tu ne peux plus le supporter. Et tu ne vois plus la grâce de Dieu. Sais-tu ce que tu ressens lorsque tu ressens ou que tu expérimentes la grâce de Dieu? Je vais vous lire les paroles d'un chant qu'un homme de Dieu a écrit. Je crie, Seigneur, à toi parce que je ne peux aller nulle part. Je ne peux pas fuir ailleurs. Est-ce que tu réalises encore cela? Mon espoir, mon seul espoir est en toi. Ô Seigneur, sois miséricordieux pour moi. Non, je n'ai pas fait cela et je mérite cela et j'ai fait ça. Non, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. À toi je viens, pauvre pécheur, et j'attends ta miséricorde à la porte. Est-ce que quotidiennement, tous les matins, tu toques à la porte de Dieu et tu demandes à Dieu de t'aider à traverser cette journée? Oui, c'est le cas. Je n'ai pas d'autre endroit où m'évader ou fuir que toi. À toi je viens, un faible pécheur. Et je ne peux même pas parler ou prier. Est-ce que c'est ton attitude lorsque tu commences avec une nouvelle journée? Que tu te vois comme un faible pécheur. Je ne sais même pas comment parler ou prier. De la peur et de ma faiblesse, rends-moi libre. Cet homme connaît la grâce de Dieu. À toi, je viens en tant que pécheur souillé et tordu. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi la grâce de voir ton sourire. Oh, tu aspires à avoir cette marche proche de Dieu. Oh, tu aspires à voir ce sourire de Dieu à la fin de la journée. Parce que tu te dis, je lui ai plu et je lui fais plaisir avec ma vie. S'il te plaît, aie pitié de moi, et cela se base sur le sang de l'agneau. Ô Seigneur, aie pitié de moi. À toi je viens, un grand pécheur. Et toi, tu connais tous mes états. Mais malgré cela, ton pardon, il y a le pardon qui vient de toi. S'il te plaît, sois miséricordieux envers moi. Je me souviens du temps où j'ai expérimenté le buisson ardent. Quand j'ai expérimenté le réveil, quand je suis venue en 68, et j'étais allée à l'église pendant de nombreuses années. Et parfois, j'avais l'impression d'être dans le désert et de m'occuper de brebis dans le désert. Je ne savais pas, est-ce que c'est à cause de mon péché ou est-ce que c'est juste le chemin que je dois prendre. Et alors je me suis dit, je vais aller vers un enfant de Dieu et exposer les choses où je ne suis pas sûr que j'ai péché, et même les choses où je suis sûr que j'ai péché. Parce que le moment où j'ai marché sur cette terre ici, Dieu m'a dit, retire tes sandales, tu es sur un endroit saint. Et savez-vous ce qui s'est passé lorsque j'ai exposé mes péchés à un enfant de Dieu? J'ai vu là, le diable voulait que je porte le fardeau et me sente coupable là où je n'ai pas péché. Oh là, j'étais coupable. Et j'ai besoin du pardon de Dieu. Et j'ai besoin d'aller vers cette personne pour demander pardon. Et j'ai prié à Dieu que je reste alerte de sa voix dans ma vie. Oh, et tu connais mes états. Tu connais tellement bien mes états. Et le plein pardon est avec toi. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Sois miséricordieux envers moi. Je viens à toi, pécheur perdu. Et non, je n'ai rien en quoi je peux faire confiance. Mais là où est ton cœur, je veux être là. Je veux être là où ton cœur est. Ô Dieu, aie pitié de moi. Cher ami, je ne sais pas avec quoi tu es occupé. Je ne sais pas quelles sont les brebis que Dieu t'a confiées pour que tu en prennes soin. Es-tu prêt à prendre soin des brebis que Dieu t'a données sans être reconnu, sans être remercié? Même si le diable te dit que tu es un prince et que tu devrais être traité d'une certaine façon, honte sur toi. Si tu viens du monde et que tu n'es pas comme ce pécheur perdu, comme nous venons de le lire. Est-ce que tu prends soin des brebis fidèlement? Et prendre soin fidèlement des brebis ne signifie pas que tu as besoin d'être encouragé par les autres perpétuellement. Cela signifie que tu fais les choses pour Dieu et que tu... Et si Dieu t'a appelé au mariage, arrête de vouloir en extraire quelque chose pour toi. La personne qui cherche dans un mariage à retirer quelque chose pour elle-même va apporter la malédiction. Mais la personne qui est consciente de la grâce de Dieu va être une bénédiction dans son mariage. Nous savons ce qui est arrivé à Dathan, Abiram et Corée. Il a dit, demain, venez à la tente d'assignation avec vos biens. Il a dit au reste de la nation, écartez-vous de ces personnes, car vous allez être détruits avec eux. Amis. Pourquoi veux-tu avoir une relation avec Dathan, Abiram et Corée? Ne remarques-tu pas, ne réalises-tu pas que cela va te détruire? Et le matin suivant, lorsqu'ils ont amené leurs biens, et Moïse était là avec Aaron, nous lisons que Dieu a ouvert le sol. Il y a une grande fissure. Ils et ils ont été engloutis dans cette faille avec leurs biens et leurs familles. Peux-tu comprendre maintenant pourquoi Moïse est tombé sur son visage lorsqu'ils sont venus? Si tu as un regard malsain, si tu es jaloux, réalises-tu à quel point la jalousie est quelque chose de grave aux yeux de Dieu? Si tu convoites et tu souhaites la position des autres, penses-tu que c'est logique? Et alors tu dis, regarde, ça paraît très logique que je prenne sa position. Ou parce que regarde ce qu'il a, regarde ce que j'ai. Est-ce que tu vis une vie double où tu agis d'une certaine façon devant les hommes et devant les autres? Et quand tu es seul, tu agis différemment. Est-ce que tu fais les choses pour être reconnu par les autres? Et tu es prêt à aller près des sorciers pour que cette personne porte une malédiction? Parce que tu permets le péché dans ta vie. Que tu puisses réaliser à quel point le péché est grave aux yeux de Dieu. Ne reste pas assis avec du péché dans ta vie, cher ami. Que Dieu te rende sensible comme Moïse l'était. De pouvoir traiter le péché dans ta vie, de le mettre à la lumière, de l'exposer, afin que la grâce de Dieu puisse avoir l'opportunité de travailler dans ta vie. Parce que tu ne vois pas ton péché. Parce que tu ne vois pas ton péché, la grâce de Dieu ne peut pas travailler dans ta vie. Lorsque tu vois ton péché, alors c'est là que tu peux voir la grâce de Dieu et qu'il peut te laver de tes péchés. Et si tu vas confesser ton péché, ne dis pas « Non, j'ai été immoral, j'ai été un ivrogne, j'ai juré. » Sois spécifique. Dis exactement ce que tu as fait. Confesse exactement ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as pensé. Alors, la vie de cet homme qui a écrit ce chant va devenir une réalité. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour cet exemple. Et nous te remercions pour ce Moïse complet qui est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ton Esprit Saint qui est venu pour nous convaincre de nos péchés afin que nous devenions conscients de ta grâce. Ta grâce qui va nous porter malgré le fait que nous avons besoin de voyager dans un désert. Donne-nous cet esprit de respect et d'honneur que Moïse avait envers toi.
May the people see the awe of God and the fear to sin
Et que les personnes puissent avoir cette crainte du péché et cet esprit de respect. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen.